Vous écoutez, on lit pour vous.
Vivre avec l'éco-anxiété. Un texte de Kathleen Couillard, paru le 18 mai 2023 dans Verdict Santé. 6 Québécois de plus de 18 ans sur 10 seraient éco-anxieux, selon un sondage réalisé en 2021 par la firme Léger. Comment cette préoccupation excessive face au changement climatique affecte-t-elle leur vie et comment peut-on gérer cette forme d'anxiété? Christina Popescu, doctorante en psychologie sociale, s'intéresse dans ses recherches au changement climatique et à l'éco-anxiété. Elle répond à nos questions sur le sujet. Qu'est-ce que l'éco-anxiété? On peut définir l'éco-anxiété de plusieurs façons, la plus usuelle étant comme une forme de peur, voire de souffrance, ressentie à force de vivre dans l'attente du désastre environnemental et social annoncé par les changements climatiques. L'éco-anxiété peut aussi prendre la forme d'un deuil, vécu lorsque l'environnement immédiat, celui qu'on aime et chérit, est voué à disparaître. Cette disparition peut être causée tant par des raisons environnementales, comme des feux de forêt ou l'élévation du niveau de la mer, que par des gestes humains, par exemple la destruction d'une forêt par l'exploitation minière. Comment se manifeste-t-elle? Les symptômes de l'éco-anxiété ressemblent beaucoup à ceux du trouble anxieux. Les personnes touchées peuvent vivre une inquiétude très intense et constante. Elles sont aussi susceptibles de ressentir une perte de motivation et de vivre cette anxiété jusque dans les tâches quotidiennes. Par exemple, lorsqu'elles vont à l'épicerie, elles ressentent de l'angoisse devant les choix à faire car elles veulent prendre des décisions bonnes pour l'environnement et pour leur santé. Dans les moments les plus intenses, les gens éco-anxieux font de l'insomnie, ont des cauchemars et même des crises de panique. Cependant, ces symptômes ne sont pas nécessairement présents en tout temps et de façon aussi forte. On peut voir l'éco-anxiété comme un continuum. Que ressentent les personnes éco-anxieuses? Lorsqu'il n'y a pas assez d'actions qui sont posées au niveau global, cela peut causer un sentiment d'impuissance et de fatalisme. Ainsi, certains jeunes ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne savent pas dans quel état sera la planète quand eux-mêmes seront adultes. Cela peut aussi amener un sentiment de colère et pousser les gens à agir ou à manifester. Une personne éco-anxieuse peut donc valser entre ces deux sentiments. Elle passe à l'action, mais elle se bute ensuite au sentiment d'impuissance si elle voit que toute son énergie ne donne pas assez rapidement les résultats escomptés. En quoi l'éco-anxiété se distingue-t-elle de l'anxiété traditionnelle? C'est surtout la source de l'anxiété qui diffère. Puisqu'elle prend naissance dans les changements climatiques, c'est une anticipation de ce qui s'en vient. Cependant, les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir. Avant, c'était vu comme quelque chose qui allait arriver dans quelques années, mais on se rend compte que cela se rapproche. L'imminence du danger est donc plus grande. Est-ce un phénomène nouveau? L'éco-anxiété existe depuis plus longtemps qu'on le pense. Au départ, les personnes éco-anxieuses étaient surtout des gens travaillant dans le domaine de la recherche environnementale ou dans des ONG environnementales. Maintenant, l'éco-anxiété devient de plus en plus commune et davantage de gens vivent avec cette forme d'anxiété, notamment des enfants, des adolescents et de jeunes adultes. Vous semblez dire que les adolescents et les jeunes adultes sont davantage touchés? En effet, selon la littérature scientifique, les jeunes sont beaucoup plus touchés. C'est aussi ce que j'ai observé dans la recherche que j'ai menée. Cela ne signifie pas que les personnes plus âgées ne sont pas conscientes de la gravité de la situation ou ne sont pas inquiètes pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est ce qui est ressorti de mes entrevues. Elles savent qu'elles ont eu la chance d'avoir connu une belle planète et une vie épanouie, alors que pour les jeunes, c'est leur avenir qui est en jeu. les préoccupations à propos de l'environnement sont-elles plus fréquentes chez les hommes ou chez les femmes? La littérature démontre que les femmes semblent plus touchées. Dans mon étude, il y a aussi plus de femmes qui ont répondu à mon questionnaire. Elles ont tendance à parler plus de cette souffrance que les hommes. Cependant, est-ce que cela veut nécessairement dire que les femmes vivent plus d'éco-anxiété que les hommes? Peut-être qu'elles ont seulement été plus encouragées par la société à exprimer leurs émotions et leurs sentiments que les hommes. Est-ce que certaines personnes sont plus susceptibles d'être préoccupées par la situation environnementale? Selon la recherche, les comportements pro-environnementaux et l'identité environnementale, c'est-à-dire le fait d'avoir un lien plus fort avec l'environnement, ont une incidence dans la présence d'éco-anxiété. J'ai pu valider cette observation dans une tranche de la population québécoise. Les convictions politiques ont aussi une influence. Les personnes plus de droite, par exemple, semblent moins éco-anxieuses que les personnes de gauche. Qu'en est-il des travailleurs du domaine de l'environnement? Ils sont plus susceptibles de souffrir d'éco-anxiété, notamment en raison de leur proximité constante avec les réalités du terrain et des changements climatiques. Cependant, le fait d'être dans l'action peut apporter deux sentiments différents. D'un côté, cela peut constituer un facteur de protection, car il se sent utile pour transformer les réalités sociales et climatiques problématiques. D'un autre côté, cela peut devenir une source de détresse et d'anxiété lorsqu'ils réalisent que leurs actions ne sont pas nécessairement porteuses des changements espérés. C'est ce que la recherche existante et mes recherches m'ont appris. Selon vous, l'éco-anxiété est-elle vraiment un problème ou plutôt une réaction normale à la situation environnementale? L'éco-anxiété est une réaction tout à fait normale face à la situation. En fait, c'est peut-être de ne pas être éco-anxieux du tout qui cache une forme de déni par rapport à la réalité. Certaines personnes utilisent le déni comme un mécanisme de défense pour se protéger d'une situation qui serait beaucoup trop souffrante. Elles ne sont pas encore prêtes à l'accepter, alors elles ne veulent pas voir la réalité. Quelle stratégie proposez-vous pour mieux vivre avec l'éco-anxiété? Il faut d'abord prendre soin de soi et prendre du temps pour auto-réguler ses émotions en faisant quelque chose qu'on aime. Ça peut être par l'humour, le sport, la danse, l'écriture, l'art. Je crois beaucoup au pouvoir de la créativité. Être proche de la nature peut aussi calmer le corps et l'esprit. Ainsi, on peut faire des balades en forêt ou des sorties au parc si on n'a pas accès à une auto pour sortir de la ville. De plus, quand on se sent moins bien, il ne faut pas s'isoler. Avoir des amis qui vivent les mêmes inquiétudes que soi, ça peut permettre d'échanger. Ça fait du bien de voir que d'autres personnes pensent comme nous et qu'on peut en parler ensemble. Est-ce que les groupes de soutien peuvent être utiles? Pouvoir rencontrer d'autres personnes et sentir que ses préoccupations sont louables et justes peut aider. Ainsi, le groupe Écomotion, basé à Sherbrooke et auquel je collabore, organise des rencontres pour parler d'éco-anxiété et de changement climatique. Il y a aussi des organisations militantes qui sont affiliées à Greenpeace, Extinction Rebellion ou Équiterre. S'impliquer dans des groupes comme ceux-là permet de passer à l'action et de ne pas se sentir seul. Cela aide à garder une forme d'espoir plutôt que d'être paralysé. Le fait que nos actions portent leurs fruits procure un sentiment d'efficacité qui est très bon pour l'estime de soi. Que faire lorsque l'éco-anxiété provoque de l'épuisement? Pour une personne qui essaie de faire sa part pour l'environnement et de vivre selon ses valeurs, l'éco-anxiété peut s'ajouter à la charge mentale. Il peut donc être utile de relativiser et de se dire que, même si on fait de son mieux personnellement, ce n'est pas ce qui va complètement changer la situation. Il faut poser des gestes sans attente parce que c'est ce qui a du bon sens pour soi. Est-ce que les réseaux sociaux et la surdose d'informations peuvent augmenter l'éco-anxiété? Absolument. Trop, c'est comme pas assez. Ne recevoir que ce genre de nouvelles environnementales catastrophiques peut affecter l'état émotionnel et le fonctionnement. Parfois, il faut prendre une pause des réseaux sociaux. Ça permet de se recentrer et de laisser de côté le flot de nouvelles négatives. Comment aider un enfant éco-anxieux? Si un jeune est éco-anxieux et que le sujet est tabou dans sa famille parce que ses parents ne croient pas au changement climatique, cela peut être confrontant. Je dirais donc que ce serait bien que le parent lui-même fasse une forme de travail émotionnel par rapport au changement climatique. Qu'est-ce que ça lui fait vivre? Pour être capable d'en discuter et d'écouter les émotions du jeune, il faut que le parent lui-même ait réfléchi. Ensuite, il ne faut pas hésiter à parler de la situation avec son enfant, pas de façon catastrophique, mais simplement parler de ses insécurités et accueillir ses peurs, ses sentiments et ses émotions. Le parent pourrait aussi proposer des activités à son enfant comme une sortie familiale en forêt ou quelque chose pour se connecter à l'environnement et se faire du bien. Sinon, accomplir des gestes proactifs pour l'environnement en allant, par exemple, ramasser des déchets sur le bord d'une berge avec une autre famille. Je crois cependant que le parent ne devrait pas être laissé à lui-même. Les professeurs à l'école pourraient aussi être formés pour être capables d'aborder efficacement ce sujet. Quelles ressources pouvez-vous suggérer à ceux qui veulent en savoir plus? Apprivoiser l'éco-anxiété de Karine Saint-Jean, une psychologue québécoise. Laure Varidel en signe la préface. En anglais, le livre Active Hope de Joanna Macy et Chris Johnston est intéressant. Ce sont mes deux coups de cœur. C'était « Vivre avec l'éco-anxiété », un texte de Kathleen Couillard, paru le 18 mai 2023 dans Verdict Santé.
Se remémorer le combat à l'époque où les hommes gays mouraient du sida. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue. Du 13 juin au 13 août et les dimanches 6 et 13 août, en collaboration avec Fierté Montréal, les Archives gays du Québec, AGQ, présentent, dans leur bureau de la rue Atatéken, une exposition intéressante intitulée « L'activisme esthétique d'Act Up Montréal, une histoire en photo et en affiche ». Act Up Montréal a connu une vie brève, mais très active et riche en manifestations et performances visant à lutter contre l'inaction gouvernementale face à la crise du VIH-SIDA. Les Archives gays du Québec conservent dans leur collection plus de 2000 photographies prises par René Leboeuf lors des activités d'Act Up Montréal, en plus du matériel utilisé lors des manifestations, tels des pancartes et des bannières. Une sélection faite à partir de cette collection fera l'objet de l'exposition, peut-on lire dans le résumé de celle-ci. On y verra une quarantaine d'éléments, dont des affiches, des photos, des bannières, des épinglettes, etc. De la période allant de mars 1990 à novembre 1993 environ, des images en noir et blanc, essentiellement, qui reflètent toute l'atmosphère de cette époque, explique l'activiste René Leboeuf, le photographe pour Act Up et le conjoint du militant Michael Hendricks depuis 20 ans. Beaucoup d'entre vous découvriront probablement, pour la première fois, l'existence de Act Up Montréal. Le sida a fait beaucoup de victimes. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, dans les années 1980, et début des années 1990, il n'y avait pas de traitement, pas de soins pour les malades. Les gens tombaient comme des mouches. Il fallait faire quelque chose et rapidement. Il fallait sensibiliser les politiciens. Cela avait mobilisé beaucoup de monde. Il y avait entre 500 et 1000 personnes par manifestation. ACT UP s'était formé à Montréal, mais cet organisme était déjà très actif dans des villes comme Paris ou New York. Puis Blaine Mosley Charles est venu de New York pour nous aider à organiser le groupe. C'est comme ça qu'on a réussi le coup d'éclat à la Conférence internationale sur le sida, explique René Leboeuf. En effet, des dizaines d'activistes d'ACT UP s'invitent au Palais des congrès de Montréal le 4 juin 1989 pour l'inauguration de la 4e Conférence internationale sur le sida. Ils réclament des mesures rapides en vue d'endiguer le taux de mortalité effarant parmi les hommes gays et bisexuels. Ils demandent aux chercheurs de partager leurs connaissances et de rendre disponibles le plus rapidement possible les médicaments expérimentaux afin de sauver des vies. C'est ce qu'on avait appelé le Manifeste de Montréal. Cette nouvelle fera d'ailleurs très vite le tour du monde et ACT UP sera connu internationalement. Cela fait partie du mandat des archives, de montrer l'histoire de nos communautés à travers une exposition comme celle-ci, de commenter Pierre Pilote. C'est lors de mes recherches pour mes études que j'ai découvert ACT UP Montréal, ici aux archives. Les jeunes générations n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, de l'histoire des communautés LGBTQ+, et des luttes qu'il y a eu. Cette exposition-là est un moyen de connaître cette histoire, souligne Mark Andrew Hamilton, le commissaire de l'exposition et étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université Concordia, sous la direction du professeur Peter Gossage. Dans ma vie d'homme gay, j'avais l'impression qu'il y avait un grand vide, un trou dans l'histoire de la communauté, de dire Mark Andrew Hamilton, qui est né à Calgary, mais qui a vécu à Vancouver, Édimbourg, Brighton et Vienne. Ensuite, j'ai découvert le fonds d'ACT UP Montréal aux archives. Les manifestations, l'activisme dynamique qu'il y a eu. Les gens mouraient, mais en même temps, on pouvait voir un grand sens de l'humour sur les pancartes et les banderoles, et par la même occasion, c'était très québécois, très francophone. C'était différent des autres branches d'ACT UP ailleurs dans le monde. On dirait que tout ça n'est pas passé des générations des anciens aux jeunes générations. Les messages d'ACT UP étaient souvent « coup de poing »,« in your face ». On voulait que la population sache qu'on ne mourra pas dans l'ombre et dans l'indifférence, ajoute René Leboeuf. On voulait interpeller directement les politiciens et les scientifiques. On n'avait pas de temps à perdre parce que des vies étaient en jeu. On revendiquait aussi des droits parce qu'à l'époque, les gars qui mouraient laissaient peu de choses à leurs conjoints. La loi était ainsi. Oui, il y a eu la loi sur le mariage. Après, longtemps après, mais cela a pris des années de lutte que les jeunes ne connaissent pas parce que beaucoup de ces militants sont morts. Les mouvements qu'on voit aujourd'hui contre les dragues et les personnes trans, ce n'est pas nouveau. Il faut rester vigilant, car rien n'est acquis. On l'a vécu, nous, à l'époque. Cette exposition-là est une prise de position des membres de nos communautés face à l'épidémie du sida qui sévissait à cette époque-là, alors que des gens mouraient. C'est tout un pan de notre histoire collective. Il faut s'en souvenir, souligne Pierre Pilote, le coordonnateur des AGQ. Pendant 2 ans, j'ai fait des recherches aux archives. J'ai parcouru les documents qu'ils ont. En parallèle, j'ai fait plusieurs entrevues avec Michael Hendricks, René Leboeuf, ainsi qu'avec Blaine Mosley Charles. Je peux dire maintenant que, grâce à eux, entre autres, je ne ressens plus cette ignorance que j'avais face au passé. Je suis très content d'avoir acquis la connaissance d'une partie de l'histoire de la communauté, renchérit pour sa part Mark Andrew Hamilton. C'est intéressant que les gens voient cette exposition pour se rappeler l'histoire, pour se rappeler cette lutte pour les gens qui sont morts du sida et pour des traitements, continue René Leboeuf. Il reste aussi le parc de l'espoir qui est né de ce combat-là pour la reconnaissance. Cette exposition est aussi dans le cadre du 40e anniversaire des AGQ et des activités qui se dérouleront tout au long de cette année, indique Pierre Pilote. Info, les Archives gays du Québec, 1000 rue Atatéken, local 201A, Montréal. agq.qc.ca. C'était « Se remémorer le combat à l'époque où les hommes gays mouraient du sida », un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 22 juin 2023 dans le magazine Fugue.
Ce pourquoi on m'engage, un texte d'Anglesh Major, paru le 10 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet. À l'heure où les portes s'ouvrent pour les acteurs-actrices issus de la diversité, Anglesh Major se demande s'il y a un lien entre la couleur de sa peau et le succès qu'il rencontre. Diversité de façade. Pratique selon laquelle un groupe ou une organisation intègre à la pièce des personnes issues de la diversité pour se prémunir contre les accusations de discrimination ou paraître inclusif et équitable. Office québécois de la langue française, OQLF. Même si son usage fait débat, l'Office québécois de la langue française et Antidote se contredisant sur ce point, c'est le terme « tokenisme ». Emprunté à l'anglais qu'il a formé à partir du mot « token », « jeton », qui est le plus souvent utilisé pour parler de diversité de façade. Sous des apparences de sagesse et de légalité en réalité, la pratique du tokenisme cache énormément d'effets pervers, comme le fait de se faire engager uniquement pour son apparence physique et non pour ses compétences. J'ai, avec beaucoup de chance et de travail, réussi aujourd'hui à me tailler une belle place dans l'industrie de la télé québécoise, mais je crois que ce serait hypocrite de ma part de prétendre que cette vague de la montée de la diversité n'a pas aidé à mon ascension. Je crois en mon talent, certes, mais serais-je où j'en suis aujourd'hui si la diversité n'avait pas si bon goût? Pas le premier. Le combat pour l'égalité date d'il y a très longtemps, de bien que le tokenisme devienne un terme d'usage courant dans les médias québécois. Qu'on parle de l'élection du péquiste Jean Alfred en 1976, le premier noir à avoir siégé à l'Assemblée nationale du Québec, du Torontois Anderson Abbott, le premier noir né au Canada, diplômé en médecine en 1861, ou de l'Américain Jackie Robinson, le premier joueur noir de baseball à intégrer les ligues majeures en 1947, on se rend compte que beaucoup de gens de la diversité ont contribué au développement de nos sociétés actuelles. Ces gens ont en effet contribué à placer les premières pierres de cette grande mosaïque de l'identité afro-descendante. Sans ces pionniers, pour ne nommer que ceux-là, ma carrière aurait été tout autre et j'en suis très conscient. Malgré ces grandes figures, je me suis longtemps battu avec ce sentiment d'imposteur lors des premières auditions que j'ai décrochées. Me prend-on pour mon talent ou ma couleur ou pour les deux? La production avait-elle un quota de diversité à remplir? Aurais-je été convoqué en audition si j'avais été blanc? Se poser ce genre de questions dénote, pour moi, un problème flagrant qui est issu du tokenisme. L'existence même du contexte de diversité de façade nous fait douter puisqu'elle masque l'intention réelle de la personne qu'on a en face de nous. Le tokenisme fait aussi en sorte qu'on voit souvent les mêmes artistes de la diversité sur nos écrans, ce qui contribue à cristalliser une voix d'un groupe minoritaire, alors que les voix sont multiples. Ce n'est pas normal que j'aie l'impression de devoir représenter ma communauté au grand complet lorsque je joue dans une série diffusée à une heure de grande écoute. La diversité de façade ne promeut pas l'individualité, elle cible l'individu en fonction de ses différences à des fins superficielles d'inclusion. Le combat n'est pas encore terminé, mais je sens un réel changement. Aujourd'hui, je décroche des rôles non pas pour ma couleur de peau, mais pour mon énergie et mon talent. Mes rôles sont multiples, je ne joue plus des personnages stéréotypés. Je vois une réelle ouverture de la part de l'industrie. Je me sens de plus en plus représenté à la télévision et je vois de nouveaux visages sur nos écrans. Il n'y a pas si longtemps, mes parents ne croyaient pas qu'il m'était possible de vivre de mon métier. Aujourd'hui, ils ont la preuve du contraire. J'aimerais, par mon travail, inspirer les jeunes et les adultes à croire que ces rêves auxquels ils et elles aspirent sont possibles. À présent, je peux fièrement dire que je suis comédien. On ne sauve pas de vie, certes, mais on change des vies. Anglesh Major est acteur et musicien. Au théâtre, il a joué sous la direction d'Edith Patnaud, d'Olivier Kemed et d'Alexandre Goyette. À la télé, il incarne un dur à cuire dans « Je voudrais qu'on m'efface » et un docteur bienveillant dans « Stat ». Producteur de musique électronique à 16 heures, il a fait paraître un album de composition originale, éphémère, en 2021, sous l'égide des disques Septième Ciel. C'était « Ce pourquoi on m'engage », un texte d'Anglesh Major paru le 10 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet.